C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sahel Plus. Aujourd'hui, au sommaire, unité politique au Mali face au terrorisme. La Gambie face à de nouveaux défis. Hausse des viols en Guinée. Enfin, Internet a été coupé dans plusieurs régions du Cameroun. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Nous ouvrons l'émission par le Mali où, suite à l'attaque kamikaze du mercredi 18 janvier à Gao, les Maliens ont tenu à réaffirmer leur unité face au terrorisme en tenant en particulier un grand rassemblement à Bamako de l'ensemble de la classe politique et des organisations de la société civile. Tous les leaders des partis politiques, de l'opposition comme de la majorité, étaient réunis pour dire non au terrorisme. Outre ce grand rassemblement, il y a eu des prières dans les mosquées et églises du pays pour le repos des âmes des victimes. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Le président de la République du Mali est plus que déterminé depuis l'attentat à la voiture piégée de Gao. Pour lui, les jeunes seront soignés et établis. Les patrouilles mixtes auront bel et bien lieu. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Le mouvement qui a osé revendiquer avec panache ce crime, il le paiera. Al-Mourabitoun paiera cela. Il ne sera pas dit que ces jeunes gens auront été massacrés en vain par des hommes sans foi ni loi. Il nous reste, chers amis, tous à combattre le monstre et à le poursuivre jusque dans ses dernières extrémités. Et cela sera le cas.
C'est pour cela qu'il y a eu un grand rassemblement à Bamako, une première depuis l'arrivée du président Ibeka au pouvoir, que la classe politique malienne, majorité et opposition, se donnent la main. Soumeila Cissé, chef de file de l'opposition malienne.
Je voudrais ici exprimer ma douleur et celle de toute l'opposition politique et républicaine suite aux tragiques événements survenus au camp du mécanisme opérationnel de coordination de Gao. Nous restons mobilisés auprès de toutes les forces patriotiques de notre pays pour combattre et condamner avec la dernière énergie les forces rétrogrades et de notre âge qui voudraient asservir notre peuple et bloquer son développement. Nous présentons nos condoléances aux forces armées maliennes, aux groupes armés signataires des accords d'Alger, aux familles endeuillées et à l'ensemble de la nation malienne.
Le grand rassemblement de Bamako avait pour cadre le monument de la colonne blanche. Younous Amey Diko, porte-parole de la majorité présidentielle.
La CMP, tout en saluant les efforts fournis, exhorte le gouvernement à doter les forces de défense et de sécurité maliennes de tous les moyens leur permettant de faire face avec l'efficacité requise à leur mission de défense du territoire national, de protection des populations et de leurs biens.
Les organisations de la société civile étaient les plus nombreuses. Dramane Diarra, président de l'Alliance des Générations Démocratiques du Mali, AGDM.
Aucun clan, aucun régime, aucun gouvernement seul, aucun groupe ne peut sortir le Mali de la crise profonde qui le terrasse aujourd'hui. C'est pourquoi il est indispensable que nous puissions ensemble, coude à coude, relever notre pays et le remettre dans la voie, dans la dynamique du développement.
Parmi les participants à cette communion nationale contre le terrorisme, des élus de la nation, Karim Keïta, président de la Commission Défense de l'Assemblée nationale du Mali.
Se mettre ensemble pour dire qu'il faut à présent que la paix revienne au Mali, que la stabilité revienne au Mali. Donc c'est un rassemblement républicain pour tous ceux qui ont souci de ce pays-là.
Au moment où ce grand rassemblement se faisait, 3 soldats maliens perdaient la vie dans la région de Ségou. Les assaillants ont détruit un véhicule de l'armée malienne et sont partis avec 2 autres. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le président Barrot devrait être de retour demain jeudi en Gambie. Quels sont les défis qui l'attendent? Pour un éclairage, Eric Manirakiza, adjoint à Londres, Fatou Diagne de l'ONG Article 19.
Aujourd'hui, le président Diagne devient une histoire. Mais le président Diagne était aussi un système. Donc, il est clair que le président Jammeh est parti, mais son système doit être vu. Et je pense que c'est ça le plus grand défi.
Après 22 ans de pouvoir et sa tentative de s'y maintenir, vu la manière dont il est parti, concrètement, comment gérer d'après Yahya Jammeh?
C'est une Gambie nouvelle qui a suivi ces élections, suivi la campagne. Vous savez que c'était ce slogan qui a tout au long rythmé cette campagne électorale qui a donné victoire à la coalition de sept partis. Et aujourd'hui, la Gambie commence à vivre une nouvelle ère. Et c'est une nouvelle Gambie, une Gambie qui va être unifiée. C'est un défi. C'est ce que les Gambiens ont voulu en votant pour une coalition. C'est une Gambie aussi qui doit se réconcilier. Parce qu'après 22 ans, il y a eu tellement de difficultés. L'état de droit a été sapé. Donc, il va falloir reconstruire les bases de l'État et essayer de consolider l'état de droit pour permettre à tout un chacun de pouvoir jouir de ses droits et aussi de faire en sorte que ce qui s'est passé pendant ces dernières 22 ans puisse être utilisé comme une leçon pour l'avenir. Et c'est là où c'est important la réconciliation nationale. Mais qui dit réconciliation nationale dit vérité. Donc, il est évident que cette commission qui pourra peut-être avoir plusieurs formes, qui aura peut-être un nom différent d'une commission vérité-réconciliation qu'on a connue dans d'autres pays, va être une commission qui permettra aux Gambiens de pouvoir se chercher et de pouvoir dire à leur façon leur histoire, leur douleur, et se pardonner pour aller de l'avant et pour donner confiance aux populations.
Est-ce que vous pensez que le nouveau président est bien préparé pour assumer ses responsabilités et gérer cette crise qui n'est pas terminée?
Maintenant, le travail commence. Le président Barrow est entouré, comme je vous l'ai dit, c'est une coalition de sept partis politiques. Les attentes sont très importantes en Gambie, surtout de la jeunesse, et nous espérons qu'il saura tirer un profit de la situation actuelle et faire revenir tous les Gambiens qui sont compétents pour former un gouvernement et aussi apaiser les cœurs et permettre à la Gambie de tourner la page et de travailler pour son développement.
Fatou Ndiaye de l'ONG Article 19 à Londres. Burkina Faso, le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale veut faire la lumière sur le contentieux entre des militaires radis en 2011 et leur hiérarchie. Après plusieurs manifestations pacifiques, les représentants de ces soldats se sont adressés aux membres du Haut Conseil afin de trouver une issue favorable à leur situation. De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
Les visages toujours graves, la volonté forte, les militaires radiés évoquent en toutes circonstances leur innocence pour la majorité d'entre eux et une lecture faussée de la mutinerie ayant conduit à leur radiation des forces armées nationales. Au Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale, Ashkroun, ils ont expliqué les circonstances qui ont entouré leur radiation. Hervé Tapsoba est le porte-parole de ces militaires radiés.
Nous attendons du Ashkroun que les dossiers soient traités et s'il y a lieu de réhabiliter ou réintégrer, que le Ashkroun puisse le faire. Mais ce que nous recherchons d'abord, c'est la justice, puis la vérité.
Si nombre de ces militaires sont véritablement coupables pour s'être mutinés avec violence, la plupart d'entre ceux qui ont subi les fourches caudines de leur hiérarchie crient à l'injustice. Valentin est de ces derniers.
2 ans, 6 mois en prison. Et je sors, la justice m'acquitte. Et jusqu'à présent, je suis dans le chômage. Nous demandons seulement au Ashkroun, ils n'ont qu'à faire pardon. Il n'y a pas de règle sans exception. C'est de l'injustice pure. Et c'est mal de l'injustice. Il y a des gens, nos collègues, qui sont morts par manque de soins. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y ait cette injustice-là. Colle des cousins, des officiers qui ont pillé et qui sont toujours dans les rangs. On a leur nom, on a tout. Quand même, soyons, on est où? On est au Burkina Faso ici-là.
Beaucoup de ces militaires auraient plutôt été remerciés pour des motifs étrangers à la fameuse mutinerie et la procédure en la matière n'aurait pas été suivie. Explique Hervé Tapsoba.
Personne n'a été jugé. C'est après la radiation que les gens ont été poursuivis. Juridiquement, c'est arbitraire parce que les textes militaires prévoient d'avoir une commission d'enquête qui doit procéder à des enquêtes. Le conseil de discipline statue et c'est à l'issue de ce conseil qu'on peut transmettre un dossier à la justice avant qu'une décision ne soit prise.
Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale indique les préalables pour résoudre cette question.
En les écoutant, on reçoit des informations qui nous permettent d'aller de l'avant. Nous devons tenir à leur dire. Dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Nous vérifierons. S'il faut entendre des personnes, la hiérarchie, on les entendra. À la suite, on verra.
566 militaires avaient été radiés en juillet 2011 à l'issue de violentes mutineries qui avaient vu les populations violentées et pillées à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les deux plus grandes villes du Burkina Faso, mais aussi contribué à pourrir le pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
viols commis sur les femmes et les filles semblent prendre une proportion inquiétante. Plusieurs ONG locales haussent le ton et demandent plus de justice. Certaines de ces organisations pointent l'impunité comme facteur aggravant du phénomène. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Castrer tout homme qui se rendrait coupable des viols, une proposition d'une députée guinéenne il y a quelque temps. Mais une réaction qui en dit long sur l'abus dont sont victimes les femmes de la part des hommes en Guinée. Le phénomène prend de l'ampleur et occupe les colonnes des faits divers de journaux. Pour se faire une idée, il faut approcher les ONG.
Le constat est alarmant. Il y a plus en plus de viols en Guinée, et surtout au niveau des enfants.
Binta Anne est présidente de la fondation du même nom pour les femmes et les enfants.
C'est des cas vraiment très tristes parce qu'on a vu des petites filles de moins de 10 ans qui ont été violées par des personnes qui ont une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Et souvent, c'est des personnes dans la famille ou dans le voisinage.
Certains violeurs bénéficient d'une protection à cause de leur lien avec leurs victimes. Moussa Yoruba, présidente de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée.
Les pesanteurs socioculturels aidants, quand ça se passe dans une famille, on a plus tendance à couvrir la personne. Surtout quand c'est entre cousins et cousines, on ne veut pas éclabousser la famille. On préfère garder le criminel, le couvrir, même si le risque de violer d'autres fillettes, on préfère le couvrir.
Journaliste, activiste, Moussa Yoro est l'organisatrice d'une marche contre une vidéo montrant un artiste chanteur guinéen en train de menacer au couteau une jeune fille nue. Dans son carnet, des cas de viol qui n'épargnent aucun âge.
On a vu un cas à Pita, quand vous en parlez, ça sort de l'ordinaire. Les gens se sont demandé si c'est un cas de sacrifice, un bébé de 9 mois qu'on a tenté de violer. Heureusement, le criminel n'est pas parvenu. Il y a 4 cas récemment du côté de Koya. Les deux fillettes de 9 ans qui ont été enlevées à Bolbini et violées à Koya, elles avaient 9 ans. Il y a 2 fillettes, l'une de 6 ans, l'une de 4 ans. Celle de 4 ans a été violée par un adulte de 46 ans, vous imaginez. La fille a passé plus de 3 mois à l'hôpital Ignace Dine pour être réparée.
Le viol est condamné en Guinée et l'auteur passible de peine de prison d'au moins 5 ans selon la gravité des faits. Mais pour les défenseurs des droits des femmes, des efforts restent à faire sur le plan juridique.
Si le crime devient recrudescent, c'est parce qu'il y a l'impunité. Si nous n'intervenons pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des négociations qui se font à l'amiable. Quelquefois, les gens payent de l'argent au niveau des commissariats ou des gendarmeries pour qu'on libère les personnes. C'est ce qui explique que le phénomène se répète souvent.
Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Au Cameroun, les connexions Internet sont coupées depuis plusieurs jours dans les régions anglophones. Cette situation paralyse les activités des citoyens et ne laisse pas indifférents les organisations non gouvernementales. Internet sans frontières déplore l'attitude des autorités camerounaises et appelle à un retour à la normale. John Lyndon, adjoint à Paris, Julie Owono, avocate et responsable Afrique de cette organisation.
Il se trouve que cette décision coïncide malheureusement avec la situation très tendue, extrêmement tendue que l'on observe dans les régions anglophones depuis plus de 2 mois maintenant, à savoir des manifestations qui sont réprimées, parfois dans l'extrême violence, puisqu'il faut se rappeler que l'on a déploré la mort de 2 manifestants au mois de décembre et que de nombreux étudiants avaient été molestés par les forces de l'ordre et les images avaient circulé sur la toile. Donc cette coupure Internet intervient dans ce contexte et ne peut que nous laisser penser qu'elle a été utilisée pour masquer d'une part la protestation grandissante, couper la manifestation en elle-même, c'est-à-dire stopper la circulation de l'information sur la manifestation et surtout stopper la circulation de l'information sur la répression et la tension qui règne dans les régions anglophones du Cameroun actuellement. Cela est totalement inacceptable et c'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés et que nous avons sollicité le gouvernement du Cameroun pour le rétablissement d'Internet dans les régions anglophones.
Les autorités camerounaises semblent justifier cette décision par le fait que les nouvelles non fondées circulent très souvent sur les réseaux sociaux et que cela peut déstabiliser le pays.
Nous avons la l'habitude depuis quelques années, effectivement, que des États, en l'occurrence le Cameroun, utilisent la question de la rumeur, de l'atteinte à l'ordre public pour justifier la censure sur Internet. Sauf qu'il existe des règles internationales et le Cameroun a signé et ratifié de nombreux traités internationaux qui protègent les libertés et qui évidemment permettent à l'État de réprimer en temps nécessaire, mais à des conditions très strictes. La première condition, c'est qu'effectivement, il y a une atteinte à l'ordre public, sauf que ce n'est pas à l'État seul de dire qu'il y a atteinte à l'ordre public. Il faut que ce soit une autorité judiciaire qui confirme et qui atteste qu'il y a une atteinte à l'ordre public qui nécessite une limitation des libertés publiques. Or, dans le cadre de figure actuelle du Cameroun, à aucun moment un juge n'est intervenu pour expliquer que là où on se trouve, il faut que l'État intervienne pour réprimer les libertés. C'est ça que nous dénonçons et c'est ça qui, pour nous, potentiellement constitue la violation, une violation du droit international, des nombreux engagements du Cameroun sur la question des libertés fondamentales.
De quelles voies de recours disposent, à votre avis, les populations dans un tel contexte?
Malheureusement, aujourd'hui, la seule voie de recours, c'est la mobilisation citoyenne, comme celle qui a lieu actuellement au Cameroun. De nombreux citoyens qui, eux, ont continué à avoir accès à Internet, puisque Internet est coupé uniquement dans les zones anglophones. De nombreux citoyens utilisent aujourd'hui leur connectivité pour alerter, interpeller les autorités, à travers notamment ce qu'on appelle un hashtag, c'est-à-dire un mot utilisé sur le réseau social Twitter pour dénoncer cette coupure et surtout appeler les autorités à y mettre fin.
Julie Owono, avocate et responsable Afrique d'Internet sans frontières. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Michel Joseph. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Salif Keïta et son titre Moussoulou. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Solo to yale, oh Guadona. Eni ki waso wadi ti yale, fisa buyuma, asa bukani. Eni kake wadi ti bari, olola mosolefe. Inale ina, ina kusa Guadona, ina Guadona. So for my head, Officer Buyuma, Asabu Kayi, and a cake for my body, Alola Mosolefe. Inale ina, ina kusa godona, ina nyomabo. Malike bole senege yorodo, ikwani daga sigile. Malike bole kulido, surofana sigile. Uraja kekele sigido, nasongo bongodo. Logo njinike wabajano, kafero bobo wodo. Katilido muro to. Mon allée, qui te dit ni alors, qui boit, sonaro.
kilada maya korosi kilada maya idiana kori emo bayala ogadonalu mabasira modi korosi bilipe mopale iladiala monale kitodini yaro kiboy boni sunaro kilada maya.